Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... J'adore les animaux, hein, par ailleurs, mais n'insultez pas dans les commentaires.
Bah, bien sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord?
Oui.
J'adore.
Je n'ai pas compris ce point dans le podcast.
Le kiff.
Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases.
Quoi? Quoi?
Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là, putain.
Ça va pas de me poser une question pareille.
Bonjour.
Bonne année,
surtout bonne année les LM Crado. Bienvenue en 2022. Si vous écoutez cet épisode en 2028, envoyez-nous un DM si Instagram existe encore pour nous dire qu'on n'est plus en 2022. Mais en attendant, bonne année, bienvenue en 2022, bienvenue dans ce LMK numéro 175, le premier épisode du reste de l'année. Je suis Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle, pour l'instant. Peut-être que ça ne va pas durer car je viens de voir sur internet qu'une petite île britannique cherche un double poste qui est aubergiste et roi. La démission est très proche. Mais en attendant, je suis toujours rédactrice en chef de Mademoiselle et je tiens à m'excuser car je sais que je vous avais solennellement promis qu'il n'y aurait pas de pause pendant LMK, pendant les vacances, que vous auriez un épisode de Noël, un épisode de Nouvel An, qu'on resterait avec vous. Et j'ai menti, car le Covid, finalement, trop de cas contact, trop de Covid, c'était compliqué, j'étais au bout de ma vie. Là, j'ai une petite crève, vous l'entendez peut-être, mais c'est garanti no Covid. Et du coup, je suis entourée d'une Dream Team pour vous retrouver. Désolée pour cette semaine sans laisse-moi kiffer, j'espère que vous avez survécu. Et comme d'habitude, pour connaître cette team, on va leur poser une question de circonstance, puisque c'est le début de l'année. En commençant avec toi, Kalindi, comme ça c'est fait, tu peux râler un grand coup. Quelle mauvaise résolution es-tu finalement?
Mais non, mais je crois que c'était quelle résolution. Du coup, j'allais dire une mauvaise. Oh là là,
ça. Ah, et bien, quelle résolution es-tu alors?
Bien,
ça marche.
Je suis une mauvaise résolution.
L'épisode le plus préparé de l'année déjà.
Je suis une mauvaise résolution de l'année, car je ne tiens jamais mes résolutions. Non, mais j'ai pensé à un truc tout à l'heure, c'était quoi? Oui, c'est
t'as
ça.
T'as rangé ton placard.
Non, mais c'est pas ça que je voulais dire.
Mais bravo quand même.
Illustration, merci beaucoup. Illustration de je suis une mauvaise. Putain, comment on dit?
Résolution?
Waouh.
Ça me fait pas du tout. On s'est tous bien reposés pendant les vacances, on vous revient en grande forme.
Mauvaise résolution, eh bien par exemple, le 1er janvier de chaque année, je me dis j'arrête de picoler tout le mois, je fais un dry January.
Nous sommes
et
le 4.
Ce soir, j'ai un apéro.
Je savais que c'était important que je dise la date avant la fin de ta phrase.
Ainsi que jeudi, vendredi, samedi, j'ai un anniversaire. Donc bon, finalement...
Mais la légende raconte qu'on peut aller à des apéros et boire
je
du soft.
Je sais, mais je n'y arrive pas. Et en fait, j'arrête de dire que je vais le faire parce qu'à chaque fois, je me dis, ce soir, je bois un Perrier. Le soir, j'arrive et puis je prends un verre de Chardonnay et puis après 14 pintes comme tout le monde. Donc,
voilà. En même temps, le prix du Perrier aussi. Ouais. C'est moins rentable.
Oui, non, mais ça, c'est clair. Mais c'est... Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc oui,
tu es la mauvaise résolution.
Je suis la mauvaise résolution du dry January. Voilà,
très bien. Le dry January jamais respecté.
Exactement.
Plutôt relatable.
Ça me fait terriblement peur parce que moi, j'ai décidé que j'allais faire le dry January et du coup, je réponds pas aux gens qui me proposent des apéros pour l'instant. Parce que
je décide de ne pas me soumettre à la tentation.
Je suis là, non, je sais pas si je viendrai, je sais pas si je vais réussir à venir sans boire un coup et tout. Du coup, j'ai pas encore décidé de si j'allais avoir une vie sociale pendant ce mois ou pas.
Je pense que c'est important de le faire parce que je pense que si tu te prouves pas que tu peux avoir une vie sociale normale sans alcool, t'es un peu en mode, mais du coup, est-ce que genre, je peux vraiment vivre sans alcool, tu vois? C'est dommage de se priver,
yes.
De pas essayer au moins.
J'avoue.
Après, si au bout d'une heure opéré, tu te fais chier, bah tu rentres chez toi et tu sauras que tu fais moins de soirées ce mois-ci.
C'est que oui. Tes amis sont chiants à un moment, faut pas.
Peut-être que tu les aimes pas vraiment. Si tu les aimes
peut-être
pas,
que je déteste tous les gens que je connais, et que c'est pour ça.
Exact. Faites le test chez vous. Si vous n'aimez pas voir les gens sobres, peut-être que vous ne les aimez pas tout court.
Non, mais j'essaye de trouver des activités pour remplacer, tu vois. Genre là, je dois avoir une pote vendredi, j'étais à bon. Qu'est-ce qu'on fait si on va pas au bar? Peut-être qu'on peut trouver un atelier céramique.
Franchement, le cinéma, c'est ce qui marche à tous les coups.
Oui, mais du coup, tu peux pas parler aux gens. Non, mais moi j'aime bien mes
on
amis.
On en revient
c'est une
à peut-être
blague,
t'aimes pas tes amis.
Oui, c'est vrai.
Bon, je
on
sais
les voir
pas.
À midi en fait. Faut oui. Bruncher.
C'est vrai, je vous tiendrai informé.
Après bruncher sans champagne, c'est nul.
J'allais dire, ouais. Bon, un brunch, c'est pas toujours... Somme, quoi. Du coup, quelle mauvaise résolution es-tu ?
Alors, je pense que si j'étais une mauvaise résolution, je serais une résolution un peu naze, mais en même temps qui désencombre un peu. Et ce serait accrocher ses cadres qui traînent genre depuis 4 ans sous un lit. Et c'est inspiré de ma vraie vie, puisque c'est ce que j'ai fait ce week-end.
Bravo.
J'ai accroché un truc. Enfin, non, en plus, je dis je, mais c'est pas du tout moi, c'est mon mec qui l'a fait.
Mais... Ah, c'est la résolution que quelqu'un d'autre tient pour
ouais,
toi.
Ouais, voilà. Accrochez vos cadres, c'est important. Après, sinon, vos trucs, ils traînent dans des coins, sous les placards. Et les jolies choses que vous achetez, que vous accrochez jamais, elles se froissent et après, elles sont cassées. Et après, c'est nul.
Ça sent le vécu.
C'est une résolution moyenne et très facile à tenir. Il suffit d'avoir une perceuse.
Et un mec.
Attends, c'est déjà deux choses que beaucoup de gens n'ont pas. Hein.
Oui. J'ai pas de perceuse. Et j'ai un mec. Hey, un sur deux.
Ou après, une meuf, ou un ami, ou une amie. Ça dépend de la taille du cadre. En fait, le bricolage, on dit toujours, mais attends, je suis une perceuse. Après, tu te rends compte qu'il faut une cheville. Après, tu te rends compte que t'as pas le bon clou. Enfin, tu vois, c'est... En vrai, ça peut très vite être super compliqué. Hein.
Je suis bien d'accord. C'est ouais, une c'est learning curve. C'est généralement, ça veut dire accrocher des trucs de travers pendant quelques années. Quoi.
Oui, et puis c'est vrai que peut-être que l'année dernière, ma résolution médiocre, c'était m'acheter un kit avec une perceuse et plusieurs chevilles et plusieurs clous, tu vois. Et que du coup, j'ai l'impression que c'est très facile, mais en fait, c'était une progression qui dure depuis des années.
Et tu t'en es servi durant l'année dernière de ton kit perceuse ou il est sorti de son emballage un an plus tard ?
Bah, je le regarde beaucoup, parce que je suis très fière de le posséder.
Que tu
ça mérite son prix du coup déjà.
Je le range à différents endroits en me disant ah là il est bien comme ça quand j'en aurais besoin. Je pourrais l'utiliser. Elles sont belles mes chevilles, tu vois, j'ai toutes les tailles et tout, c'est très satisfaisant. Et je m'en sers peu, mais parfois.
Littéralement, ça va les chevilles. Littéralement.
Très bien, merci Aïda. Toujours relatable aussi, j'ai trop de cadres qui traînent chez moi, donc merci de me le rappeler.
J'en profite pour te dire que tu as des ongles incroyables.
C'est merci vrai, c'est Kalindi. Vrai. Vous ne les voyez pas, mais vous pouvez croire Kalindi sur parole, ils sont incroyables.
Non, c'est phénoménal.
Chaque fois que tu me dis ça, j'ai fait genre du jardinage la veille, du coup je me dis putain, est-ce qu'ils sont dégueulasses aujourd'hui ou pas. Mais là, ça
mais
va.
Quelle vie tu merci. Mènes
Qui fait du jardinage
qui
à Paris.
Et qui fait du jardinage et accroche pas ses cadres, c'est vraiment hyper bizarre, tu vois.
Mathis, quelle mauvaise résolution es-tu? Oui. Ou bonne résolution, mais peut-être un peu déjà ratée, quoi.
Alors, moi, j'avais pensé une grosse blague, genre, ah, je suis la résolution d'un Blackberry, hihihi, lol, mais c'est pas Numérama ici.
J'aurais jamais pensé.
Bisous aux collègues de Numérama.
J'aurais jamais pensé, franchement, t'es tellement un cerveau.
Je sais.
Tu sais que tout à l'heure, quand tu trouvais pas le mot résolution, j'ai failli dire, c'est parce que t'es pas une geek, et je me suis dit, peut-être qu'elle va même pas comprendre la blague, en fait. Donc, je vais pas la tenter.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en si peu de temps?
Et oui.
Incroyable.
J'ai pensé à la blague et je me suis dit, ça va pas marcher.
Non, je suis la résolution des personnes un peu chiantes parce que à chaque fois, tu sais, t'as ce truc de ouais, j'étais une mauvaise personne en 2021, je vais devenir un peu meilleur. Et t'as des gens qui arrivent avec des résolutions complètement autocomplaisantes. Donc je suis ces résolutions-là cette année, du genre prendre le temps de m'écouter, être plus moi-même, ce genre de choses.
Être
vraiment...
plus moi-même. Non,
c'est être les gens déjà parfaits.
Et toi, c'est vrai que t'es déjà peu toi-même. Donc.
Exactement. Non, mais comme je suis dans une phase où j'aborde pour la première fois depuis très longtemps une année en tant que célibataire. C'est vraiment ce moment de je me ressens sur ce dont j'ai vraiment envie et je suis vraiment dans cette phase-là, premier degré. Ce qui veut pas dire qu'évidemment j'ai pas des trucs sur lesquels j'essaie de taffer par ailleurs, mais voilà.
Est-ce
c'est,
que tu te
c'est
tires
un
les
peu
cartes
le mood. Ah non, je suis pas à ce niveau-là.
C'est l'étape d'après, je pensais de faire des oracles pour soi-même.
L'année
pour
prochaine
faire un exercice méditatif.
Vous avez l'air de vous moquer des gens qui tirent leurs propres cartes, je me sens attaquée. Okay.
Ouais, je me moque pas des gens qui tirent leurs propres cartes, je suis pas très à l'aise avec les gens qui croient. Premier degré à la sorcellerie, parce que je suis pas très à l'aise avec les croyances et les religions en général. Enfin, je trouve que les dérives sont rapides. Mais il y a plein de gens qui se tirent les cartes un peu plus comme dans un truc méditatif, tu vois, de... Bah, tu prends déjà le temps de savoir quelles questions tu voudrais leur poser, et après t'interprètes les trucs, mais en vrai, c'est surtout prendre un peu de temps pour toi et réfléchir à tes objectifs et tes envies. Je me moque vraiment pas de ça.
Pour l'instant, moi, je tire mon coup, c'est déjà très très bien. En fait. On s'arrête là.
Écoute, c'est un bon début d'année de célibataire si au moins tu tires tout. C'est tout le mal qu'on te souhaite pour 2022.
Moi, j'ai une grand-mère qui allait souvent voir une voyante, qui lui a dit qu'on allait devenir très vite, très riche, très vite, plutôt. Et
Les deux marchent, hein.
Pardon ?
Les deux marchent, je pense.
Et vice-versa.
Ah ouais, putain, mon cerveau est vraiment...
Est-ce que t'as déjà la gueule de bois de ton drive d'annuaire ?
C'est dingue, j'ai pas bu depuis 4 jours. Et en fait, ma grand-mère est décédée avant d'être très riche, très vite. Du coup, je me dis... que c'est peut-être mon tour. Et l'année dernière, Alix Martineau m'a tiré les cartes et ça a dit que j'allais être très riche et très célèbre très vite. Alors vraiment, j'ai l'impression que c'est pour cette année.
Ce qui est bien avec le très vite, c'est que c'est très relatif, tu vois. À l'échelle de 100 ans, bah, 3 ans, c'est très vite. Mais moi, j'y crois pour 2022.
Merci
beaucoup. Très riche, très célèbre.
Super, merci.
Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd puisque Laurent Ruquier, ce LM Crado, nous écoute chaque fois.
Est-ce qu'il a répondu à nos stories ?
Jamais, il lâche des vues.
Ah, mais il a vu ?
Je sais pas. Non mais peut-être qu'il a vu, tu sais, on sait pas, c'est les gens, ça tombe dans... Mais non, parce que quand tu ouvres pas le truc, t'autorises pas la personne à rentrer en contact, on sait pas. Mais moi je pense qu'il a vu.
Moi aussi, je pense
qu'il a vu. Parce que ça fait 4 fois qu'on le mentionne.
J'ose pas ouvrir, ils vont voir que j'ai vu, bien sûr.
C'est ça.
Laurent, n'aie pas peur de nous. Viens, non, laisse-moi, tu fais tout ira bien. Pour ma part, je sais quelle mauvaise résolution je suis grâce à Anthony Vincent, qu'on embrasse, que vous connaissez bien dans LMK, puisqu'il a fait un test sur Mademoiselle. Quelle mauvaise résolution quelle résolution allez-vous abandonner très vite en 2022? Et le résultat était un peu trop pertinent pour moi, puisque c'était, tu vas être la personne qui décide de planifier toute sa vie, qui s'achète un planeur, etc., et qui s'en sert pas ou qui le perd. Littéralement, Mimi 2020. On s'en souvient ? Oui, 2020, 2021, je ne sais pas, le temps n'a plus de sens. Donc je pense que je suis vraiment la meuf qui, chaque année, se dit, peut-être que je vais être une personne différente, une personne qui utilise un planeur ou une personne qui a des post-it. Genre, je me souviens que pendant le premier confinement, j'avais fait des post-it de tout doux et tout au-dessus de mon bureau. Ils sont toujours là, j'en ai fait zéro. Vraiment, toutes ces tâches, ça fait 2 ans, je suis là, bah cool, elles sont toujours en cours, hein, mais je vais pas les faire. Ou alors je les ai déléguées. Donc peut-être qu'un jour, j'apprendrai le 1er janvier que ça sert à rien de me dire cette année, t'organises ta vie. Parce que j'y crois encore. Là, 2022, je me dis, si, peut-être je vais m'acheter un petit. Peut-être c'était le format du planeur qui allait pas, et pas juste le concept de planeur. On verra, je vous tiendrai au courant. Au moins, j'arrête de vous en parler. Le 3 janvier, en mode, c'est la révolution de ma vie avant de l'abandonner forever. On est dans une transparence. Voilà, un peu de recul. Est-ce que tu voulais pas, Mathis, avant qu'on passe aux commentaires, me faire un petit topo sur nos LM Crado en DM ? Parce que ça fait 2 semaines qu'on leur a pas parlé et apparemment, eux, ils ont dit plein de trucs.
Mais oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bah, comme on a fait une pause, on s'est dit, bon, bah quand même, on va être un peu présent et on va faire des petites stories. Et quand je dis on, c'est moi et moi-même.
Merci Mathis, tu travailles
merci.
Si bien.
Et donc, voilà, donc pas mal de gens ont répondu aux stories parce que c'était un peu le but. J'aurais été un peu triste si personne n'avait répondu dans les encarts. Et du coup, j'avais demandé aux gens leur kiff 2021, j'avais demandé leurs petites étapes de la vie. Et puis plus largement, voilà, des retours. Déjà, bah du coup, je voulais vous remercier à toutes et tous d'avoir réagi, d'avoir de réagir en fait chaque semaine, même à nos posts, aux stories, c'est toujours chouette. Et puis on essaie de répondre à tout le monde. J'y arrive pas toujours, mais on s'en sort.
Vous êtes trop.
Mais vous êtes trop, c'est incroyable. Et puis bon, j'ai pas juste envie de répondre, haha, et partir. Et puis voilà, il y a pas mal de messages boubou en attente.
Ça fait un cœur, on est content.
C'est vrai. ça dépend du message. Quand c'est vraiment un pavé, j'ai du mal à juste lâcher un cœur.
Mais
bon. Voilà, j'apprendrai peut-être. Dans vos kiffs 2021, vous avez donc décroché le permis, trouvé votre voie professionnelle, voyagé seul pour la première fois ou en couple, vous avez été en Turquie, au Costa Rica, à Amsterdam, vous avez pris des cours de danse contemporaine, de poterie, de théâtre, de volley, vous avez découvert Pomme, il serait temps. Vous avez découvert...
Le mec shame. Bah alors, vous viviez dans une grotte, qu'est-ce qui se passe?
Quand même, Pomme.
Alors, fun fact, chouette, j'ai découvert la voix de Billie Eilish le 31 décembre, quand elle est tombée dans la playlist.
De quelle année?
Putain, c'est sympa. De cette année-là. Bah, c'est sympa comme tout, Billie Eilish, hein, vous le saurez, elle a du talent cette gamine, hein. Ouais,
elle ira loin. C'est vraiment les gens, attends, écoute, ça c'est vachement cool, et puis c'est le Black Eyed Peas quoi, genre. Ouais, donc oui, vous avez découvert aussi le film Boîte Noire, le podcast Cerno, Lin-Manuel Miranda, le conte de Baba O'Rom et les vidéos de Trixie Mattel sur YouTube. Donc voilà, à peu près tout ce que vous avez kiffé en 2021.
Trop bien.
Évidemment, c'est des personnes différentes, ou alors c'est une personne qui kiffe beaucoup de choses, et c'est très
chouette. Une belle année.
Et vous avez aussi pas mal de petites étapes de la vie, vous avez fait des thérapies, vous avez fait des premiers apparts, des séparations, vous avez rencontré des amis, rencontré l'amour, vous avez éloigné des mauvaises fréquentations, vous êtes devenue maman, vous êtes devenue végé, vous avez décroché votre master, fini votre thèse, changé de taf, vous êtes devenue indépendante financièrement, vous avez géré comme vous pouvez le Covid, moi-même j'ai géré 2 fois le Covid après 2 vaccins à l'aide.
Je crois que c'est le Covid qui t'a géré.
Vraiment, genre 2022, je me dis bon, ouais, je combien de fois cette année. Et puis vous avez même fait la vaisselle au fur et à mesure, et je pense que ça, on peut le saluer.
Wow. Félicitations, c'est le plus impressionnant de la liste.
J'y arrive toujours pas. On n'a même clairement pas tenté ça en bonne résolution. Vraiment, c'était pas sur le radar.
très clairement. Et je voulais juste finir en remerciant tout le monde pour les dédicaces, pour les messages de remerciements, les compliments et les remarques parfois. Je pense notamment à Marion, qui est une auditrice, je cite, de la 0e heure, qui a découvert grâce à Mimi 2 heures de perdu.
Yes.
Et qui adore la voix d'Aïda. Donc voilà, je
pense
à
ça. Merci Marion, c'est... je t'adore.
Et oui, je remercie Martin qui se décrit comme un vieux de la vieille alors qu'il a 17 ans et à qui on doit déjà beaucoup de mèmes. Martin qui souhaite une réunion des équipes originelles. Donc je suppose que ça implique une mise à mort des nouveaux.
Voilà. Martin qui souhaite que tu ne sois pas là finalement.
Clairement, donc moi je lis son commentaire. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Mais un jour on aimerait bien vous faire un laisse-moi kiffer All Star. Vous le savez, on l'a
mais
dit
oui.
Le problème c'est quoi? C'est que si on le fait, on aimerait bien que ce soit en public. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Bah il y a le Covid. Mais un jour, maybe, on sera tous et toutes réunis. Et genre tout le monde quoi. Enfin pas tout le monde, ça fera vraiment,
ça beaucoup, fera vraiment beaucoup de
mais
gens.
Mais toutes les équipes au moins de LMK réunies, ça peut être sympa.
Très clairement. Et je finis, je mettrai de la musique derrière, ça sera divertissant et mouvant, je pense. C'est un peu une cérémonie.
Un peu le... Ah oui, grave.
Voilà. Et je voulais remercier aussi Gigi, qui nous a découvert par hasard sur Spotify, comme pas mal de gens, en cherchant de quoi se motiver à sortir son chien à l'époque, et qui remercie même Monsieur Chaussette, c'est dire. Et puis aussi toutes celles et ceux qui vivent des moments difficiles, et que le podcast aide un tout petit peu, et ça c'est chouette, qui sont à la fac, au travail, dans la vie affective, on a tous des moments pas cool. Et aussi toutes celles et ceux qui participent au bouche à oreille, qu'on fait découvrir à des amis, à leurs frères, à leurs sœurs, à tout le monde, à leur curé, allez-y, franchement. Bravo. Et puis aussi, je voulais remercier tous les gens qui orthographient mal mon prénom, ça fait toujours plaisir. Et c'est très régulier. Et je vais m'arrêter là parce que pour le but, c'est pas de faire un LMK de 12 heures. Voilà.
Merci beaucoup, Mathis. Merci à tous
tout
et toutes.
Bravo!
Pour vos messages sur Instagram, peut-être. Alors, j'ai dit à Mathis, vas-y, on en fait une section récurrente dans l'intro, mais bon. Peut-être cette intro est déjà longue.
Ce sera pas aussi long.
Ça peut
fois.
Être cool de réagir un peu à vos DM de temps en temps. Donc continuez à nous en envoyer et peut-être que de temps à autre dans l'intro, en plus des commentaires que vous nous envoyez déjà et qu'on va lire tout de suite, on parlera un peu de ce que vous nous avez raconté sur votre vie en DM sur le compte @laisse-moi-kiffer. Et maintenant, c'est l'heure des commentaires. Est-ce que Kalindi, tu as un commentaire?
Tout à fait, Lila, il est prêt.
Waouh.
C'est un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Fiona. Coucou Cal, j'ai écouté le replay de LMK de Noël où tu parles de Chambord. Ça fait trop plaisir car j'ai grandi dans ce coin-là, donc Chambord, c'est toute mon enfance. On y allait hyper souvent pour se balader, voir des animaux dans les observatoires, pique-niquer. Bref, j'aime trop t'entendre parler d'un truc auquel je suis attachée dans LMK, ça fait quelque chose, je suis émue. Et même quand tu parles du Clos Lucé, rappelez-vous, c'est là où a vécu qui ?
Léonard de Vinci.
Bravo ! Vous avez...
Je l'avais zéro, incroyable.
Mais t'étais là, Mimi.
Putain, Mimi.
Mais ça fait 2 semaines, tu sais ce qui s'est passé dans ma vie. Énormément de choses et de champagne, enfin, je ne sais plus.
Et donc, pour le Clos Lucé en bois, c'est pareil, MDR. Maintenant, je vis à Tours, donc c'est des coins que je connais par cœur. J'espère que ça t'a donné envie de découvrir d'autres châteaux de la Loire. Hit me up si tu veux des recos châteaux.
Mais je sais...
Évidemment, j'adore ça, les châteaux.
Tout à fait, mais je sais qui c'est Fiona dont j'avais parlé parce que je lui ai fait broder un t-shirt pour une copine.
C'est
Fiona qu'on adore, coucou Fiona, et qui maintenant est fromagère. Qui est quand même la meilleure vie.
Trop
tellement
bien.
Le meilleur métier.
Si ce n'est pas toi et que c'est une autre Fiona qui vit à Tours et qui adore Laisse-moi kiffer, bonjour, deuxième Fiona qui vit à Tours et qui adore Laisse-moi kiffer, mais je pense que c'est Fiona. Coucou Fiona.
Coucou Fiona, merci. Et avec plaisir pour des recos châteaux.
Tout à fait, ainsi que fromage.
Tellement ainsi bien fromage. D'avoir des recos châteaux dans ces DM, c'est extrêmement stylé.
Attends, je vais enchaîner avec mon commentaire parce que du coup, en fait j'en ai deux. Parce
comme
qu'il y a
ça,
deux
moi,
personnes qui nous ont un petit peu corrigé, mais j'en ai un sur le château donc je vais enchaîner. C'est Marion s'invite qui dit. Coucou, je suis en train d'écouter le replay du Twitch LMK et je voulais juste apporter une réponse à ta question, donc la mienne, concernant la chambre noire d'une reine endeuillée. Tu te demandais dans quel château c'était, parce qu'effectivement je me souvenais d'avoir vu une chambre toute noire où la meuf, le roi était mort et elle était restée toute sa vie dans sa chambre de deuil, mais je savais plus. Et elle me dit, il s'agit du château de Chenonceau, c'est la chambre de Louise de Lorraine, femme d'Henri III. Ce dernier est mort assassiné à Paris et sa femme était à Chenonceau quand elle a appris la nouvelle, donc effectivement la chambre au deuxième étage est entièrement noire. Voilà pour l'info, je bosse à l'office de tourisme de Chenonceau, donc si un jour tu reviens dans le coin, je te recommanderai tous les trucs cool à faire et à manger dans le coin. Merci pour les fous rires, j'écoute LMK depuis le début, je n'ai jamais raté un épisode et vous continuez de me régaler. Donc on a des conseils châteaux
tous
et
ces endroits où faut qu'on aille.
L'office de tourisme de Chenonceau quand même, en direct, dans les DM.
Incroyable.
J'aimerais bien qu'on fasse des voyages à LMK dans des châteaux.
Oui.
Un jour. Vas-y Aïda, je te laisse faire ton commentaire du coup.
Alors... Mon commentaire, il faut que je déverrouille mon téléphone bien sûr, qui vient de Lisa Nanas, de son nom sur Instagram, qui elle aussi était, commente le dernier live Twitch d'LMK et qui me dit « Coucou Aïda, je regarde en retard le dernier live LMK et merci pour le gros fou rire sur ton kiff des morses. »
J'ai raconté à 5 personnes différentes ton kiff, surtout le moment où ils étaient en train de quête.
Il y a vraiment des gens qui m'ont envoyé des vidéos genre « Ah, regarde cette vidéo, est-ce que les morses, ils ont fait des trucs mignons avec toi et tout ?» J'étais là « Bah, ça va, mais ils n'étaient pas aussi mignons que sur la vidéo. » Et après, les gens, ils étaient là « Ouais, enfin bon, de toute façon, c'est toujours mieux que les voir Ken et faire des sextapes. » De mort, c'est tout.
Les gens, ils sont jaloux, oui, moi, je pense. C'est des jaloux.
Ce n'est pas ma faute. Bref, mais après, je sais pas si c'est vraiment pas ma faute ou pas, parce que j'ai une autre malédiction, où parfois, il y a toujours des pigeons en train de ken à côté de moi dans la rue. Je vous en parle.
En fait, tu rends les animaux ornis. C'est ça, ton super pouvoir nul.
C'est vraiment désagréable. J'aimerais beaucoup que ça s'arrête.
Ouais, mais par exemple, tu vois, genre, les pandas, ils étaient en partie en voie de disparition parce qu'ils sont extrêmement cons et qu'ils arrivent pas bien à ken, tu vois.
C'est vrai.
Je sais pas si vous avez... Alors,
mais c'est Aïda qui va sauver les espèces.
Ben oui, c'est ça. Vous googlez si vous avez jamais vu des vidéos de pandas dont les soigneurs essayent de les faire ken. Ils sont vraiment extrêmement bêtes. Ils se roulent dessus, mais pas dans le bon sens. Enfin, c'est en perpendiculaire, il n'y a rien qui va. Bref, on dirait pas qu'ils ont l'instinct pour se reproduire.
La première fois, un tuto.
Faut t'emmener dans tous les zoos où il y a des pandas géants. Et comme ça, on te met dans leurs cellules. Et grâce à ton pouvoir, ils seront là. Ah, on a grave envie de se reproduire. Et bam!
Pourquoi voilà. avoir besoin d'aphrodisiaque alors que j'existe finalement? Bisous.
Le Viagra du zoo.
Ok, Aïda, le Viagra du zoo, c'est peut-être le titre de l'épisode.
Vraiment le super pouvoir le plus nul du monde. Toujours est-il que Lisa j'ai moi-même passé la nuit avec les zoos au parc de Sainte-Croix en Moselle, où les animaux sont en semi-liberté et best experience ever. Je ne savais pas que ce parc existait, mais ça a l'air trop bien. Elle a vu plein d'ours et du coup elle me dit « En bonus, j'ai filmé un ours qui se casse la gueule dans l'eau, c'est très drôle. » Elle m'a envoyé la vidéo, c'est effectivement très drôle. Je peux pas vous la montrer, mais je peux vous le décrire. En fait, c'est un ours qui est sur une passerelle et on n'arrive pas à savoir s'il essaye de descendre dans l'eau ou pas, mais il a l'air vraiment super con. Et d'un seul coup, il tombe dans l'eau, mais la première chose qui touche l'eau, genre, c'est son cul, tu vois. Il est debout.
Un débile.
Il essaye de bouger un peu et il tombe comme ça, comme un culbuto dans la rivière. C'est extrêmement nul.
Genre, la vidéo, tu l'as en DM ?
Oui.
Ok, alors on va essayer de la récupérer et de vous la poster en story quand cet épisode sort.
Grave, grave. Et on comme pourra le faire avec la vidéo du morse aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui mais avaient réclamé.
Voilà, et bah écoutez, ça. Jeudi, on sera le combien ? Le 6 ? Jeudi 6 janvier sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer pour bien commencer 2022. On aura des animaux débiles.
Des vidéos peut-être d'animaux. Conclu,
peut-être pas.
Ça va devenir vidéo gag le compte.
De ouf, oui.
Vraiment.
Le grand bêtisier des animaux sur C8.
Regardez, il tombe, c'est rigolo. Et en plus,
merci,
je clique.
Merci Lisa pour ton commentaire.
Merci beaucoup.
Et Mathias.
Oui,
est-ce que tu as un commentaire ?
Mais bien sûr, moi j'ai été pomper mon commentaire sur le compte LMK direct parce qu'il y en a plein et ils passent à la trappe et c'est pas
chouette. Ah bah oui, vas-y.
Ou alors j'ai pas d'amis, c'est selon. Donc c'est un commentaire de Pandro30. Voilà, bon. Hello les beautés, je viens d'écouter le dernier LMK. Merci de parler de la surdité. Donc c'est pas le dernier LMK qui vient de sortir. Hein. Contexte, c'était celui où on parlait des feux qui faisaient des bruits à Paris pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes.
Ah oui. Voilà.
D'ailleurs non, parce que je dis n'importe quoi. Merci de parler de la surdité, je
pense. Oui, je le disais, c'est étonnant. Non, on a parlé des personnes non-voyantes, mais pour un autre
oui,
truc.
Oui, absolument. Donc je sais pas à quel épisode on fait allusion. Voilà, bon, merci de parler de la surdité. Je bosse
si,
dans
parce...
ce...
Ah, mais t'étais pas là. J'ai parlé d'un film qui s'appelle The Sound of Metal.
Mais oui.
Dedans, il y a le héros qui perd l'audition et qui du coup rencontre une communauté de personnes sourdes qui, tu sais, vivent dans la culture sourde et qui considèrent pas ça comme un handicap.
Mais oui, mais moi
c'est
je les écoute les épisodes comme je les monte. Je
oui,
suis
c'est vrai, je suis
un
con,
peu au courant.
T'étais pas là, mais en fait tu les écoutes. Pas comme nous.
Non, non, mais j'ai vraiment zéro excuse. J'ai juste fait une association d'idées un peu
stupide.
C'est
le début d'année.
Ouais. Donc je bosse dans ce domaine depuis quelques mois, mais j'ai appris la langue des signes en 2017 et c'est réellement mon quotidien. Je sais que LMK n'est pas la place pour ça, mais si vous voulez une tranche de vie d'une LM crado, je serais ravi de vous en parler. Et donne-moi des cours d'élocution si tu peux au passage. Merci d'en parler et d'entendre la langue des signes. Et pas langage m'a vraiment touché. Alors ça
oui, parce qu'il
ne
faut pas
sens.
Dire langage des signes,
ah,
parce que ça fait comme si on avait qu'un.
Pardon.
Alors qu'il y a des langues des signes selon les pays. C'est pas genre la langue des signes américaine et la langue des signes française, c'est pas exactement la même. Ce qui
ouais,
est logique.
Oui, c'est ça, bien sûr.
C'est pas comme si toutes les personnes sourdes s'étaient reconnectées dans l'humanité, quoi.
Voilà. Et la personne vous souhaite un joyeux Noël, ce qui est adorable. Merci beaucoup.
Tout à fait. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai un deuxième commentaire parce que. Du coup, nos auditrices sont cultivées et m'ont corrigé sur un petit détail. Et je trouve ça trop cool parce que, genre, je trouve ça trop cool d'avoir des gens qui me corrigent là-dessus. C'est Lison qui me dit « Bonjour Mimi, je suis une auditrice de Laisse-moi kiffer. Je tiens à vous remercier pour ce podcast absolument génial. »
Je t'envoie un message car je suis assez dubitative suite au dernier Laisse-moi kiffer que je suis en train d'écouter. Vous parlez de fossiles en forme de spirale et vous les appelez des trilobites. J'étais déjà trop fière de m'être souvenir du mot trilobite. Laissez-moi vous dire que j'avais tort. Car Lison fait ses études en paléontologie et elle me dit, je me devais de vous reprendre là-dessus, je pense que vous parliez d'ammonites qui ont une forme entortillée. Les trilobites, c'est des gros cloportes avec
des
trois
fossiles.
Lobes.
Fossiles.
Pardon. Oui, pas les fossiles.
Depuis tout à l'heure, mais oui, et j'étais là, what the fuck.
Je bugais de ouf.
Mais sur Trilobit, il n'y avait pas un indice.
Moi, je pensais à des fossiles.
Paléontologie,
par moi, je pétais un câble.
Ouais, okay. J'ai bugué aussi, honnêtement.
Ça m'a vraiment pris genre une minute.
Waouh.
Donc, les fossiles, les vieux trucs fossilisés, là, pas les décorations. Cailloux. Donc, elle fait ses études en paléontologie. Vous parliez d'ammonites qui ont une forme en tortillée. Les trilobites ont une forme de cloporte grossier avec trois lobes, d'où le nom trilobite. Mais je dois quand même vous féliciter de ne pas avoir fait de blagues sur le mot trilobite. J'ai eu un stage à faire.
J'allais le faire, yes.
Pareil, j'ai fini son DM, j'étais là. Ok, je vais pas la faire. Car elle a eu un stage à faire dessus et elle a entendu beaucoup trop de mauvais jeux de mots. Je pense que d'autres vous ont déjà repris là-dessus. Pas du tout, ils ont vraiment, les gens ne savent pas la différence entre ammonite et trilobite, donc heureusement que tu es là. Et elle nous dit, je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous dire que LMK est une idée incroyable, que vous m'accompagnez toutes les semaines, notamment dans le bus où j'ai eu des fous rires qui ont dû paraître bizarres aux autres voyageurs. Merci pour tout et continuez le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Lison, pour cette correction et sache que finalement, tout le monde a déjà ri bêtement dans le bus à cause de LMK. Tu n'es pas seule, ça fait partie de l'aventure.
C'est incroyable ce que les LM Crado.
Choses, hein.
Ouais.
Ah oui, on se cultive grâce aux LM Crado.
Vous êtes si cultivés et si smart, merci beaucoup.
Tout à fait. Et maintenant qu'on s'est bien cultivés, c'est l'heure du message boubou, du message
réré,
du message
bourré.
C'est parti.
Bonjour.
Bonne année.
Waouh.
On vous appelle pour le message boubou.
Le message réré.
Le message bourré.
Alors, on appelle depuis la Belgique.
Depuis les laisse-moi kiffer depuis des années.
Oui. Et on est trois. On s'appelle Agathe, Loïse et Laurie.
T'as oublié son nom.
Mais non, j'ai pas oublié son nom. J'allais le dire, tu m'as pas laissé le temps. Et...
Ok. On voulait vous dire qu'on vous aime beaucoup, qu'on adore vos podcasts et tout ça.
Et on fait un nouvel an plus, hein. C'est un nouvel an mais le 1er janvier parce qu'il y en a qui travaillaient le 31, enfin non ils travaillaient pas mais on n'était pas tous là, donc on fait un nouvel an le 1er janvier et voilà, et on s'apprête à faire un shot pong, c'est comme un beer pong mais avec des shots à la place des billards.
Je crois qu'ils s'en foutent.
Oui, ils s'en foutent.
Merci d'être vous, continuez comme ça.
Voilà, bisous et bisous Kalindi, elle est trop chouette.
Et Mimi, j'aime
beaucoup Mimi. Mimi, elle est trop chouette.
Et Aïda.
Et Aïda, elle est géniale.
Aïda, Aïda.
Que ça nous manque un peu, mais elle est trop bien aussi.
Moi, j'aime bien tout le monde pour dire.
Tout le monde est trop bien, c'est vrai. Okay. Bisous, 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 bisous.
Bisous.
Bisous. Ça s'arrête pas.
C'est le meilleur message.
Ok, c'est la meilleure phrase de fin. Ça s'arrête pas. Incroyable, merci beaucoup. Agathe, Laurie et
Laurie.
Lucine
aussi, non?
Il y en avait trois.
Il y
bref,
deux
moi aussi,
L
j'ai oublié un prénom, voilà. Merci beaucoup les filles. Alors, bon, loin de moi l'idée de vous dire quoi faire de votre vie, mais attention avec les shot pong quand même, ça peut monter vite et fort. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, rappelons-le. Très beau message, Boubou. J'aime bien qu'il y ait plusieurs personnes parce que y a pas, tu sens que quand c'est une personne solo, elle se perd elle-même dans son esprit. Et du coup, elle est égarée. Là, elles sont trois, elles se rattrapent mutuellement. C'est très efficace. Merci beaucoup, les filles. C'est très mignon.
Et puis, parfois, on a des messages Boubou de personnes qui sont en train de rentrer de soirée. Et du coup, des fois, tu sens le bout du rouleau,
ouais,
tu vois, du
le
message
verre de trop,
de
là, ça fait une demi-heure que tu l'as bu,
t'es claqué, t'as pris le bus pour rentrer chez toi et tout. Là, elles étaient en plein dans leur soirée. C'était trop bien. Tu sens l'énergie de ouf. Ça me donne envie d'arrêter le Dry January.
On les remercie quand même de l'avoir
et
enregistré avant
le
shot pong. Parce que je pense qu'après le shot pong, ce message est beaucoup moins articulé quand même. Allez, on va pas faire l'anecdote de Star, on la fera la prochaine fois car ça fait 40 minutes qu'on a commencé ce podcast. Il est 15h40 pour de
ce
vrai.
Ce podcast devrait durer 3
Mais non,
heures.
Non, on est à 26 minutes.
Ah oui, pardon. Bon, non, bah allez, ça fait quand même une demi-heure. On va passer au kiff quand même. C'est donc l'heure du jingle.
Je vais me moucher pour l'instant.
Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des mêmes en gifs. C'est l'heure, c'est l'heure,
Merci Valentin. Toujours les mêmes blagues en 2022, ça bouge pas. C'est parti pour les kiffs. Mathis, quel est ton premier kiff de l'année que je t'ai obligé à changer puisque tu voulais en prendre un autre et que j'ai usé de mon pouvoir dictatorial pour t'en faire changer.
Exactement, c'est ce que je disais. C'est la première fois que je lis un livre de ma vie et j'ai pas le droit d'en parler. Donc,
tu nous parleras bientôt de ce livre.
Oui,
parce c'est que... ton deuxième kiff de l'année, du coup.
Tout à fait. Parce que voilà, c'est un des avantages d'avoir le Covid tous les trois mois. Faites comme moi. c'est que vous recommencez à faire des trucs que vous faisiez pas avant, genre vous occuper de vos plantes, par exemple.
Incroyable.
Voilà. Mon kiff de la semaine, moi, c'est des essais cinématographiques américains sur YouTube. En fait, moi, ouais, non, mais là, comme ça fait un peu chez père. Et en vérité, c'est très, très accessible. Et c'est justement ce qui est chouette. C'est un truc que j'ai commencé à regarder, avec une ex-copine, qui m'avait montré, voilà, des vidéos qui passaient, et qui analysaient, en fait, certains films. Et j'avais commencé, je me souviens, à être vraiment marqué par un sujet, alors, d'une chaîne qui est pas exactement celle dont je vais parler, qui s'appelle Pop Culture Détective, qui analysait.
J'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer il y a longtemps.
Et ben voilà, bah, ça fait.
C'est
quoi,
l'un des
ça
seuls Patreons que je soutiens.
Et voilà. Et du coup, cette chaîne-là, justement, faisait une vidéo sur les hommes agressés sexuellement dans les films, pour des ressorts comiques, que ce soit des agressions par des femmes.
Que vous retrouvez dans la description.
Voilà, et ben je vous mettrai tout ça dans la description. Toujours est-il que ça m'avait donné envie de poursuivre et de trouver d'autres chaînes qui faisaient ça. Et il y a une chaîne qui s'appelle The Take, que vous connaissez peut-être, et qui fait ça très 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 bien, qui s'intéresse à la fin des films parfois, donc qui fait vraiment ce truc d'explication de fin de film, qui est un peu classique mais qui marche toujours, mais qui a aussi des trucs plus engagés et qui a notamment un module qui s'appelle Tropes. Donc les tropes, en gros, ça va être plus ou moins un cliché, un peu redondant, une figure qui va émerger à force. Et en gros, ils s'intéressent à plein de films et plein de figures globalement de la pop culture et elles analysent à chaque fois, elles prennent vraiment le temps de confronter plein de représentations pour analyser, je donne des exemples, par exemple, d'où ça vient ce cliché de la blonde un peu conne dans les films, d'où ça vient le cliché de la fille méchante. En fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui reviennent régulièrement et qui à chaque fois, du coup, quand elles reviennent, ça va être associé à des qualités, à des défauts, etc. Et en fait, on a l'impression d'avoir le même personnage qui voyage d'un film à l'autre. Et à chaque fois, elles essaient de déconstruire ce truc-là en disant ça vient de tel film qui a vraiment commencé cette tradition-là, et puis tel film l'a un peu déconstruit récemment.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Donc un exemple de truc qui m'avait complètement surpris à l'époque, c'était, je venais de voir 500 Days of Summer, je crois, et qui parlait de...
Ensemble, en français.
Voilà, ouais, c'est ça en français. Et qui, du coup, parlait de la Manic Pixie Dream Girl, qui était un concept que je ne comprenais absolument pas, et je pense que la vidéo vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, donc je vous invite à aller voir dans la description si vous parlez anglais.
Attends, tu veux que je le tente de résumer c'est quoi une Manic Pixie Dream Girl?
Tu peux, tu le feras peut-être mieux que moi.
Vas-y, vas-y.
Dans l'idée, pour moi, c'est une... Une meuf qui est vraiment super cool, super spontanée, un peu quirky comme ça, qui fait des trucs, qui est un peu bizarre, mais qui est pas bizarre chelou dans le sens repoussant, mais plutôt
oui,
attirante,
bizarre,
mais en même temps...
Genre ça reste féminin et...
C'est ça.
Littéralement,
et
des
Chanel,
quoi.
Vous avez des Chanel dans la plupart de ses rôles, oui. Ouais. Dès qu'elle a une frange, a priori, c'est ça.
Et vraiment vue dans un prisme masculin à chaque fois, c'est-à-dire que c'est vraiment... une perspective sur une meuf et en fait on comprend, elle a aucune profondeur, on comprend pas ce qu'elle veut vraiment, etc. Je sais pas si je le résume bien, mais
ouais, en fait c'est ça l'idée, c'est que la Manic Pixie Dream Girl, c'est pas une représentation, donc Manic Pixie Dream Girl, les mots ça veut dire voilà, cette meuf un peu fofolle de rêve qui dans les films se retrouve sur le trajet d'un héros masculin qui lui généralement il lui manque quelque chose dans sa vie, il lui manque un peu de joie et un peu de folie, et en fait la particularité de ce personnage féminin c'est qu'elle n'a aucune existence propre, elle va être caractérisée que par son interaction avec le personnage masculin qu'elle va généralement décoincer et amener à un moment un peu plus cool, un peu plus heureux de sa vie. Mais elle au final, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, c'est quoi son but, c'est quoi ses ambitions, on n'en sait rien, parce que c'est ça qui fait que ça peut pas être une vraie personne, parce que dans la vie les meufs sont jamais, enfin elles peuvent jouer ce rôle mais les meufs sont des personnes dans la vraie vie. Ouais. Mais dans les films il y a beaucoup de personnages féminins qui ne sont que cet outil scénaristique de « Wouhou, la vie est belle, vas-y, on va faire des pas chassés au bord de la mer et oublier les problèmes d'adultes pour faire avancer un héros masculin. »
Exactement. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant quand j'avais découvert ça à l'époque. Et c'est toujours chouette de revoir ces vidéos parce qu'en fait, comme ils prennent exemple sur plein de films, en général, vous les avez pas tous vus. Donc c'est chouette de rattraper après à faire. Mais oui, en effet, en enrichissant ça de votre culture cinématographique, qui est toujours à faire de toute façon. Voilà. Et puis, je trouve qu'il y a plein de sujets qui sont souvent féministes, mais il y a aussi d'autres thèmes. Je sais que c'était intéressé à la spicy Latina dans les films, qui revient souvent, notamment avec West Side Story, le personnage comment elle s'appelle ?
Anita DeBose.
Voilà, tout à fait.
Bravo.
Joué par Marita Moreno à l'époque. Mais voilà, il y a plein de thématiques comme ça qui sont super intéressantes, donc je vous invite à aller voir. Et j'ai pensé aux gens qui parlaient pas anglais ou qu'en tout cas étaient pas à l'aise à aller voir des contenus. Donc il se trouve que c'est pas sous-titré en français, j'ai vérifié. Je suis très déçu pour vous. Voilà. Mais il y a un autre podcast qui parle de ciné, qui analyse sous un prisme un peu sociologique aussi les films. C'est le podcast No Ciné de Binge Audio. Donc il n'est pas très actif, enfin, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'épisode, mais en tout cas vous en avez je crois plus de 200, vous pouvez aller voir. Donc si ça vous intéresse en tout cas d'avoir des essais un petit peu sur le cinéma, c'est une culture qu'on n'a pas encore énormément développée en France je trouve, vous pouvez aller voir ça et je pense que ça vous fera déjà des choses sympas à regarder et à écouter. Voilà.
Trop bien.
Vraiment. Très contente que tu parles de ça parce que ça fait partie je pense de mon top 10 des trucs à consommer sur internet, c'est des analyses d'œuvres, surtout en podcast comme les gens le savent, j'écoute beaucoup trop de podcasts sur des films et des séries, mais un peu sur YouTube même si c'est moins ma cam, et The Take c'est une des seules chaînes YouTube que je connais, donc j'étais là pour une fois je connais Pop Culture Détective et The Take, incroyable.
Et ils font des podcasts aussi.
Et moi je vais écouter No Ciné parce que vous le saurez, ma grande découverte de 2021, les c'est podcasts. Le podcast.
Mais putain.
Mais quoi,
Kalindi, tu me chauffes.
Mais non,
tu me tends.
Alors, Mimi, je te signale que t'es pas non plus... Tu n'écoutes pas tant de podcasts que ça.
Mais j'en écoute depuis 2013, tous les jours.
C'est sûr. Moi, j'écoutais des podcasts, mais qui étaient en fait des rediffusions de
des grosses
radios, en fait. Et surtout des grosses têtes. Alors, pour se mentir. Et en fin d'année dernière, je me suis dit, Kalindi, ne sois pas idiote. Et j'ai commencé à écouter dans le métro. Et c'est vrai que c'est sympa, je comprends ce que vous avez tout avec le podcast.
Voilà, cher LM Crado, Kalindi vous comprend enfin. Pourquoi vous nous écoutez depuis 175 épisodes. Merci beaucoup, Mathis, pour
mais
ce kiff.
Grand plaisir.
C'est donc la chaîne The Take.
Tout à fait.
Tu es toujours intelligent, Mathis.
Toujours.
Je suis votre première fan.
Aïda, c'est quoi ton
kiff ? Dire moi aussi, t'es ma première, je suis ton premier fan, mais c'est pas grave.
J'ai cherché à faire de l'esprit, mon esprit a fait ta gueule et j'ai rien fait. Voilà. J'ai souri poliment, mais j'ai un masque.
Tant pis.
Trop dans de pression doute. Parce qu'on t'a dit que t'étais intelligent.
Je sais pas réagir aux compliments. Arrête !
Dans le doute, quand c'est Kalindi, tu peux la flatter. Ça marche
exactement.
Toujours.
Exactement.
Et je suis ton premier fan aussi.
Merci, Mathis.
Miroir.
Ah, c'était spontané.
C'était naturel, mais...
Laissez-moi tranquille. Je ne sais pas être sociable. Voilà.
C'est bien pour un podcast. Aïda, c'est quoi ton kiff ?
Bonjour, bonne année. Alors, mon kiff, c'est un livre, car j'ai probablement envoyé mon kiff à Mimi avant toi, Mathis. C'est ce qui m'a donné le droit de parler d'un livre aujourd'hui.
C'est vrai.
C'est un livre que j'ai lu il y a 3 jours, je pense, en une journée, que j'ai bingé ce week-end, qui s'appelle, car ce n'est pas n'importe quel livre, qui s'appelle Fleabag, The Scriptures. Et en réalité, c'est le scénario de la série Fleabag.
Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est en lien avec...
Bien sûr.
C'est... Donc c'est pas vraiment, vraiment un livre stricto sensu.
Mais c'est des mots sur des papiers, Mathis, ok.
Le mec qui lit un livre par décennie vient dire « C'est pas vraiment un livre, on est d'accord. » Ok, j'endors le son.
Il est mort, laissez-le là où il est.
Ah putain, j'avais oublié.
J'ai vu son sosie l'autre jour à Bouillon, en Belgique.
Peut-être qu'il est pas mort.
Il est peut-être juste en Belgique.
Il avait envie d'être tranquille en Belgique.
La nouvelle ligne édito, c'est le complotisme. Vraiment. J'endors des sons, es-tu là ?
Est-ce que vous avez entendu parler d'Avril Lavigne ?
Oui.
Qui aurait été remplacée par un sosie. Bref, un jour je ferai. Non, je ferai pas ça. Je ferai pas un kiff sur mes théories du complot chelou préférées.
Si, si, vas-y, j'ai fait tout un article sur le truc Avril Lavigne tellement j'adore
c'est
cette théorie.
Bah, c'est Patrick Timsit avec une perruque, non ? C'est grillé de toute façon.
Quoi ?
Attends, mais d'où tu trouves que Patrick Timsit ressemble à Avril Lavigne ?
Je sais qui pas. J'ai pris la personne la plus loin pour que ce soit clair.
Non mais
c'est dur cet épisode.
Rebranche mon cerveau, s'il vous plaît.
Attendez, on reboot Kalindi, on revient.
C'est plus un podcast, c'est de l'Aveyron là, tout le monde rame.
Attends, vraiment, moi je suis reine des sosies, je trouve pas, tu vois.
Plus personne ne fait d'humour dans ce laisse-moi qui fait Kalindi n'arrive pas à suivre.
Avril Lavigne, Patrick Timsit, merde. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Y a rien en commun. Rien.
Bon, soyons premier degré pour qu'on puisse se comprendre, s'il vous plaît.
Un jour, on parlera théorie du complot, idéalement sur Twitch, parce qu'en vrai, c'est trop marrant. Du coup, en attendant, Fleabag the Scriptures.
Fleabag the Scriptures.
un accent toujours plus chiant, finalement.
Chaque fois que je vais le dire, je vais abuser un peu plus. La prochaine fois, ce sera l'accent écossais. Donc, que je ne sais pas faire et que je n'ai jamais entendu de ma vie. Donc, Fleabag the Scriptures.
Oh là là, oh là là.
Toute l'Écosse est offensée.
Pardon.
L'Écosse s'est désabonnée immédiatement.
Je viendrai vous voir cette année et j'essaierai d'apprendre. Bref, c'est donc peut-être un livre, mais peut-être pas selon Matisse, un objet. En papier
imprimé
sur lequel on a imprimé le scénario de Fleabag. Fleabag, si vous ne connaissez pas, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde parce que vous allez pouvoir découvrir Fleabag, qui est probablement ma série préférée de tous les temps. Créée et réalisée et interprétée dans le rôle principal par Phoebe Waller-Bridge, qui raconte l'histoire d'une meuf qui vit à Londres et qui est dans une période un peu chiante de sa vie. Sans trop spoiler, mais en même temps, c'est sorti il y a 15 ans, donc peut-être qu'on peut spoiler un petit peu quand même. C'est une meuf qui est en proie au deuil de personnes qui sont proches d'elle dans sa vie et qui est aussi en proie à plein de remises en question, qui utilise notamment le sexe comme moyen de se sentir un peu mieux, mais ça marche pas toujours, et qui fait nimp. En fait, elle est un peu... Enfin, Fleabag, c'est une série qui est complètement déjantée. Je crois que dans le premier épisode, tu vois le personnage principal qui est à côté de son mec en train de dormir dans le lit. Et en fait, elle commence à regarder un discours de Barack Obama en se masturbant. Et du coup, son mec se réveille. Et il est en mode « Ouais, tu fais quoi ?» Il était là « Je regardais les infos et tout !» Sauf que pas du tout. Et donc là, s'ensuit une espèce de scène de rupture et tout. Enfin bref, c'est une série qui est vraiment hyper marrante, hyper bien écrite. Très très fine, il y a beaucoup d'humour évidemment, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont évoquées dans la série. C'est en 2 saisons, je pense qu'elles sont sur Amazon Prime,
oui,
en ce moment, si vous voulez les regarder légalement sur une plateforme de streaming française.
Et on aurait dit des notes de bas de page, c'est vraiment très bien fait.
Moi je prépare toujours ce podcast, messieurs dames.
Tout à fait.
Et c'est donc bon, c'est brillant, c'est très drôle, c'est très triste, c'est très cringe aussi, ce qui est mon style d'humour préféré. Donc je recommande fois 1000. Et il s'avère que en 2019, ce que je ne savais absolument pas parce que je suis toujours à la bourre, sont sortis ces scriptures qui ont été édités en bouquin. Et moi, c'est la première fois que je lisais le scénario d'une œuvre que j'avais déjà vue adaptée. De manière générale, je lis peu de scénarios. Je ne sais pas si ça se trouve beaucoup ou si c'est quelque chose qui se fait de vendre les scénarios.
Ça s'est dit souvent, ouais. Des gros trucs.
Comme quoi ?
Mais j'en lis pas, moi, personnellement. Je ne sais pas qui lit des scénarios dans ton livre, mais
c'est la première question que j'allais te poser. Bah c'est, ouais. C'est quoi l'intérêt, finalement ?
J'avoue que c'est un angle mort de ma culture générale, absolue. <tu vois.
rire> Kalindi, elle est là, ne me demande pas. Je ne suis plus rédactrice cinéma.
Ouais, bah écoutez, si vous lisez des scénarios de.
Non, je
que
sais
vous
que
avez
ça
vu,
se fait parce que par exemple, mon mec, il a ceux de. Merde. Fuck.
Star Wars.
Non. Les Sopranos.
Ah, j'étais pas loin.
Donc, je sais que ça se fait pour les grosses séries et les gros films, mais je me demande toujours qui les achète et à la fois, ça doit être très intéressant.
Moi, j'ai que ceux qu'on me propose, hein, comme tout le monde. Star Wars.
Ceux qui arrivent sur mon bureau, quoi.
Moi, je les décline, mais je garde, ça fait collection, c'est joli.
Tu vois, j'ai encore mis vraiment 10 secondes à comprendre ce que tu disais. Yes.
Non, wow. Mais vraiment, le podcast du
Star
premier
Wars,
degré.
Merde. Pour le rôle de Chewbacca, voilà.
Tu sais faire Chewbacca?
Allez, Aïda, enchaîne. Vite, vite.
Ben voilà, moi j'avais pas lu de scénario avant et encore moins de trucs que j'avais déjà vu adaptés, mais j'ai vu une pub, je crois, enfin un truc passer sur mon écran où il y avait écrit Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, j'étais là, oui, je okay. Clique, prenez mon argent et donnez-le
si
à cette personne.
Les coordonnées bancaires d'Aïda, vous savez comment faire, vous faites pirouetter Phoebe Waller-Bridge
vous
et ça
faites
passe.
Faites pas s'il vous plaît. Mais n'utilisez pas ce pouvoir que vous avez contre moi, tous les LM Crado. Et donc j'ai cliqué en me disant allez on va voir ce que ça donne, dans tous les cas ce sera bien, et en fait c'était incroyable comme expérience. Je me doutais pas que je prendrais autant de plaisir à lire un truc que j'avais déjà vu à l'écran, et bon après la dernière fois que j'avais vu Fleabag ça datait un peu de je sais pas il y a 2-3 ans, donc je m'étais dit allez c'est un peu passé, tu sais plus ce qui s'y passe exactement, et en fait c'est cool parce que évidemment le scénario a été écrit comme il a été pensé pour l'écran. Donc en fait, comme Phoebe Waller-Bridge, elle réalise et elle joue la série, il y a plein d'intentions qui sont notées dans le scénario. Et du coup, tu vois un petit peu ce qu'elle essaye de faire passer comme message, comme émotion, comme envie, en fait, et comme interprétation au spectateur au moment où elle l'écrit. Y a plein de choses que j'avais, moi, pas interprétées comme elle l'entendait, ce qui était intéressant aussi à voir. Après, ça marche que si vous êtes archi fan d'un truc et que vous le connaissez par cœur, tu vois. Genre, tu m'aurais proposé ça sur autre chose, j'aurais pas eu cette interprétation-là, je pense. J'aurais pas été là, ah ouais, dans l'épisode 4, minute 47, il fait ça, et ça fait un peu peur. Et en fait, c'est pas censé être effrayant, c'est censé être cool. Bref, ça ne marche pas si on n'est pas obsédé par Fleabag comme je le suis. Mais ça a plein d'autres qualités, et notamment celle aussi de voir les talents d'écriture d'un scénario de manière générale. Souvent, moi, quand je regarde une série, je m'attache au dialogue et à l'écriture des dialogues, parce que c'est la première chose que tu vois. On se rend moins compte, ou en tout cas, moi, je me rends moins compte en tant que profane et pas très grande cinéphile, du lien hyper fin qu'il peut y avoir entre l'écriture de la réalisation, la manière dont les choses se déroulent à l'écran et la manière dont on écrit les dialogues. Et c'est hyper intéressant de voir ça, surtout quand c'est quelqu'un d'aussi brillant que cette meuf, que Phoebe Waller-Bridge.
Oui, en plus, c'est vraiment son œuvre à tous les niveaux, tu vois. Je pense qu'il y a des scénarios où t'as peut-être moins d'indications de réal, ou alors elles sont moins suivies parce qu'en fait, le réal, il arrive et il fait sa vie, quoi. Là, c'est son œuvre. Elle l'a écrite, elle joue dedans, elle réalise, elle l'a créée. Enfin, elle est complètement en contrôle. Et je trouve que, enfin, moi, j'ai pas lu le scénario, mais j'avais lu pas mal d'interviews de Michaela Coel quand elle a sorti I May Destroy You, excellente série sur Trop OCS, bien. Après avoir fait Chewing Gum, excellente série aussi qui n'est plus dispo sur Netflix, je crois malheureusement. Et en gros, elle a quitté Netflix, même s'ils voulaient lui financer sa série d'après, parce qu'elle voulait garder l'intégralité du contrôle créatif et des droits. Et donc, elle a fait beaucoup d'interviews où elle parlait de l'importance d'être 100% en contrôle, puisque elle aussi, elle l'a créée, elle joue dedans le premier rôle, elle l'a écrite, et je pense qu'elle l'a réalisée en partie, il me semble, I May Destroy You. Et je trouvais hyper intéressant d'avoir un artiste, et surtout une artiste, parce que c'est plus rarement des femmes qui sont en full contrôle de leur œuvre et qui du coup racontent 100% de ce qu'elles veulent raconter. Je trouve que c'est trop bien. Donc je comprends l'intérêt maintenant de lire des scénarios.
Ouais, carrément. Et puis, pardon. Il y a aussi un truc qui est hyper, hyper marrant, c'est de voir à quel point les blagues sont pas les mêmes selon qu'on les montre ou selon qu'on les écrit. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de moments à la lecture du scénario qui m'ont fait crier, genre j'étais comme une teubée sur ma liseuse dans mon lit et je faisais « Ah !» Et t'as mon mec qui était là « Il y a quoi ?» J'étais « Ah non, mais parce que tu vois, à un moment, et ben, elle fait ça. » Bref, c'était hyper difficile à expliquer, qui était pas aussi marrante à l'écran et inversement, tu vois. Donc tu vois aussi un peu les ressorts humoristiques qui sont utilisés en visuel et en écriture. Et bref, c'est trop bien quand on est méga fan d'un truc comme moi, je suis fan de Fleabag. En fait, c'est trop intéressant d'avoir tous les aspects de l'œuvre et ça m'a fait redécouvrir plein de trucs que j'avais oubliés, ça m'a fait revivre la série d'une manière différente et c'est cool aussi en fait quand on a revu le truc 14 fois de se dire ah, je peux le redécouvrir d'une autre façon et tout, ça change un peu. Ça a un peu changé mais j'ai re-regardé la série après donc voilà,
ça t'a redonné envie.
Ouais, grave.
Très efficace.
Et après je me suis sentie complète.
Dans le livre, t'as que la saison 1.
Non, il y a les deux.
Il y a les deux saisons qui ont été pensées dès le début.
Qui ont été, pardon ?
Tu sais si ça a été pensé dès le début comme un tout ou si c'est venu après parce que moi je trouve la saison 2 bien meilleure.
Ouais.
Mais
Écoute, je sais pas, c'est pas précisé. Il me semble qu'à la base de toute façon, Fleabag ça vient d'une pièce de théâtre ou d'un genre de one woman show, donc je pense qu'il y a des aspects de la première et de la deuxième saison qui ont été pensés dès le départ.
T'es censé normalement penser, sauf si tu pars vraiment sur une mini-série, penser à au moins deux ou trois saisons, sinon les chaînes elles t'achètent pas ta série en fait. Donc,
ok.
Je pense que ça l'a été pensé dès le départ quoi.
Ok.
En tout cas, je pense que l'intrigue de la saison 2 était déjà pensée. Ouais, après, c'est sûr que même en termes de production, c'est vachement plus quali sur la saison 2 que la saison 1. Donc peut-être qu'ils ont mis plus de thunes à partir de la deuxième saison. Mais voilà, c'est très drôle. N'hésitez pas à lire des scénarios de trucs que vous aimez.
Franchement, c'est une grave bonne
Reco
idée.
Reco 2022.
Mmh. Ça me fait. L'autre jour, je me disais que c'est dommage qu'on ait perdu avec le streaming les commentaires de réalisateurs et du cast sur les DVD. Qui avait du coup pour plein de pareil, dès que c'était un peu un gros film ou une grosse série, t'avais souvent t'avais genre le réal qui arrive et qui commente. T'as même une version, je crois que c'était Twilight, t'avais les commentaires de Robert Pattinson sur Twilight qui sont les choses les plus drôles parce que personne déteste Twilight autant que Robert Pattinson qui joue Edward Cullen déteste Twilight et vraiment toutes les scènes, il est là, c'est tellement prétentieux, je déteste cette tenue et tout. Il passe un très mauvais moment.
Mais ils vendaient le DVD avec ça dedans, genre.
Ils s'en battent les couilles.
J'aurais dû regarder ça, je vais regarder ça sur YouTube.
J'avais vu beaucoup d'extraits sur Tumblr à la grande époque. Mais du coup, au-delà de Robert Pattinson qui déteste Twilight, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir le regard de l'équipe sur un contenu. Je sais que HBO le faisait pour Game of Thrones sur la dernière saison. T'avais un épisode compagnon de chaque épisode qui était comment on vient de créer cet épisode. Mais ça se fait très très peu, tu vois, sur Netflix. Tout le monde a maté Squid Game. T'as pas un behind the scenes Squid Game avec le mec qui t'explique son intention. Donc ça me manque un peu. Et écoute, peut-être que les scénarios, c'est une façon de retrouver un peu ce côté coulisses, quoi. Et ce truc de comment, qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on en est arrivé là.
Netflix le fait, mais c'est marrant pour des plus petites productions. Comment s'appelait cette série qui se passait, je crois, c'était aux États-Unis avec une jeune israélienne.
Unorthodoxe
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Il y avait aussi. Donc ils le font parfois.
Peut-être
mais c'est
aussi sur des trucs où il y a un peu de pédagogie, parce que unorthodoxe, c'est toute la communauté orthodoxe juive qu'on connaît peu, et je pense qu'il y a un truc de... On veut pas non plus stigmatiser, donc on va peut-être faire un peu de boulot pédagogique là-dessus, quoi.
Non, mais au-delà de ça, moi, je trouve que... Par exemple, moi, à mon tout petit niveau, en ce moment, j'essaie d'écrire de la fiction. Et en fait, je me dis que ce que moi, j'écris, ça a vocation, un jour, j'espère, à pouvoir exister quelque part visuellement. Et je me dis que tout le matériel sur lequel j'aurais planché pendant tellement de temps... ce matériel-là n'existera que pour les personnes qui l'auront lu et auront décidé ou non de faire cette œuvre. Et du coup, je trouve ça terriblement dommage que personne puisse le lire. Donc, je trouve que c'est cool qu'il y en a qui soient édités et qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça et qui décident de le lire après. Après, il faut avoir le succès de Phoebe Waller-Bridge, j'imagine, pour qu'on t'édite ça.
Mais on te fera éditer tes scénarios.
Merci beaucoup, Mimi. C'est gentil.
Mais c'est comme en théâtre, en vrai, dans les didascalies, des fois, je trouve qu'il y a des choses très, très belles qui s'écrivent. Moi, je lisais beaucoup de théâtre un temps. Je le fais beaucoup moins maintenant.
T'es passé au vrai livre, du coup.
Je vais lâcher le micro, mais pas de manière badass, de manière contrariée, et claquer la porte et revenir 5 minutes après en disant c'est fini.
Je fais une didascalie, il prend la porte de façon dramatique.
Exactement. Non, mais en vrai, moi j'adorais ça quand je lisais du théâtre, d'avoir l'impression du coup d'en savoir un peu plus entre guillemets que ce que tu vois dans une mise en scène qui d'ailleurs parfois va être complètement libre, mais c'est pareil dans les films. Hein, mais je trouve ça chouette parce que aussi des fois c'est très bien écrit. Et puis je trouve que ça peut donner des indications improbables en fait que tu peux même pas porter sur scène parfois. Je sais que Sarah Kane, si vous connaissez un peu le théâtre britannique des années 90, parce que,
mais enfin on est
pourquoi pas
culte, mais de quoi tu parles.
Non mais Sarah Kane a une écriture très intéressante parce que bon, évidemment c'est très très violent. Je conseille comme ça, mais c'est à ne pas mettre entre toutes les mains parce qu'elle parle beaucoup d'agressions sexuelles, de violence en général. Et en fait elle écrit des choses qui sont pas possibles matériellement. Et Denise Kelly qui est un autre dramaturge britannique à peu près de la même époque, c'est pareil, il écrit des trucs du genre elle lui plante un machin dans les yeux, machin et tout, et on sait que pas possible sur scène, tu vois.
Mais c'est
et
l'intention.
Pourtant, c'est du théâtre. Donc, et je trouve ça assez intéressant de se dire en fait, j'écris mes didascalies comme si j'écrivais un bouquin classique, et en fait, la personne qui le lit derrière, elle va en dégager le sens qu'elle veut et retranscrire.
Bisous, les metteurs en scène, c'est votre job maintenant de planter
exactement
des trucs dans les yeux des acteurs.
Mais je trouve ça très drôle, du coup, parce que tu peux amener des choses en mise en scène qui peuvent pas être by the book, mais qui seront forcément inspirées de ce que tu as lu et de la violence de. Mm. Tu vois, tu t'imprègnes de l'esprit plus que de matériellement ce que tu dois faire, quoi. Parce que
c'est
bon,
beau,
il fait un pas à droite, voilà, ok, super.
Certes. Voilà. Merci beaucoup, Aïda, pour ce kiff. Normalement, sauf si tu changes, t'as changé d'avis entre-temps et de kiff Kalindi, on va continuer un peu dans la même lancée, parce qu'on va continuer la culture.
Ouais, après je peux changer, hein.
Non, mais vas-y.
Si ça fait trop.
Mais non, mais je t'ai pas dit de changer.
Ah ouais.
Ce qu'il y a de trop de culture.
Parce que moi, on m'a dit oui à un livre aussi, dis donc.
Mais bien sûr, on t'a dit oui à un livre.
Mais je vais
c'est
y aller.
C'est facile,
hein.
C'est par ordre d'arrivée. Voilà.
Et voilà, il y a bien dans le cul.
Mais après, est-ce que toi, c'est un vrai livre ou pas? On va voir.
Ah, moi, c'est Mathis qui un vrai livre. Mathis, regarde là.
Attendez, mais j'ai un décalage horaire dans le 15e, moi.
Tu vas détester.
Oh, il y a des images.
Mon Dieu, des images. Alors, moi, c'est une BD. Je vous ai dit il y a quelques semaines que je me remettais à aimer ça de ouf. Mais en fait, depuis que j'ai dit ça, j'en ai lu plein et tout m'a saoulée. Donc j'étais là, en fait, est-ce que j'ai menti pendant LMK? C'est possible. Mais parce que je trouve, et j'avais dit la dernière fois déjà, je trouve que souvent, on met tout sur le visuel et en fait, les textes sont un peu chiants. Et je viens de terminer une BD que je trouve sublimissime, qui s'appelle La jeune femme et la mère, qui se passe au Japon. Mais les décors sont sublimes, la peinture est extraordinaire et les textes... sont assez pauvres, quoi. Donc j'étais vraiment triste, jusqu'à ce que, pour Noël, mon beau-père offre, non pas à moi, mais à mon compagnon, cette BD qui s'appelle Le conte fait son cinéma. Et eh bien, mon compagnon l'a lu tout de suite. Et quand il l'a eu fini, il me l'a passé. Et je l'ai lu tout de suite. Et je l'ai adoré. J'espère qu'il va y avoir un 2, un 3, un 4, un 5. Et c'est très rare parce qu'en général, je finis une BD, je suis là, bon, bah voilà. Et donc là, j'étais très très contente. Le Comte fait son cinéma. Ça parle de Patrice Lecomte. Est-ce que vous savez, vous les jeunes, Mathis, par exemple,
bien
qui c'est
le magasin de suicide.
T'as dit vous les jeunes, j'ai levé la main, je l'ai baissé.
C'est l'adaptation du pire livre de Jean Tollet, mais à mon avis. T'as dit quoi ? Les Bronzés, Les Bronzés 2, Les Bronzés 3, ouais. Malheureusement.
Mais moi, je savais Bronzés et Les Bronzés 2, très bien. Et aussi, le reste des Bronzés. Bon. On peut pas avoir un sans faute partout, quoi.
Et mais moi, oui, j'adore Patrice Lecomte, je l'adore. Je l'adore depuis toujours, je regarde tous les documentaires sur lui, dont un excellent qui est disponible sur Canal+, qui a été réalisé par mon bon ami Fred Moirotto. Je fais un peu de publicité pour ceux qui m'entourent. Et en fait, là, c'est l'histoire de deux gars, qui sont les gars qui ont fait la BD, qui s'appellent Nicobi et Joub, qui sont apparemment des gars connus. Genre, moi, je savais pas qui c'était. Comme la dernière fois, je croyais que je vous apportais un truc sur la BD japonaise. En fait, tout le monde l'avait lu. Donc, je ne sais plus qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vis à côté de mes pompes. Attendez, j'attends. Hop.
C'est bon, je suis là. Okay.
J'aime pas quand tu m'écoutes pas, Mimi. Pardon, j'oublie pas. Je crois que ça te vexe. Et donc, Nicoli et Joub, ils ont eu la super idée. En fait, ils étaient fans du cinéma de Patrice Lecomte. Ils se sont dit, un peu comme vous vous souvenez de Mathieu Sapin, qui avait fait une BD dont j'avais parlé il y a des années et qui, en fait, avait suivi Gérard Depardieu pendant 5 ans. Et c'était incroyable, cette BD. Ça te montrait à quel point ce gars-là est archi seul, alors que c'est fucking Gérard Depardieu, quoi. Bon, bref. Et donc là, c'est un peu le même concept. Ils partent pendant plusieurs années sur tous les tournages de Patrice Lecomte, sur tous ces événements. On est cette BD. Et en fait, ce que j'ai trouvé super, c'est que ça te montre à quel point même un gars comme Patrice Lecomte, aujourd'hui, c'est-à-dire un gars qui a fait beaucoup pour la comédie française et pour la bonne comédie française.
Ah, je pense qu'on peut dire que quand t'as fait Les Bronzés, t'as fait tes preuves, oui, ça
c'est clair. Et puis même avant, enfin, tu vois, il a fait son premier film, il y a un film que j'adore et qui a été dégommé par la critique quand il est sorti, c'est Les WC étaient fermés de l'intérieur. Je sais pas si vous avez vu ce film.
J'adore le titre.
Avec Jean Rochefort, qui est vraiment, je trouve, une merveille sur un poinçonneur qui a été assassiné dans des toilettes, mais le verrou était fermé de l'intérieur, donc comment c'est possible ?
Mystère.
J'adore, je trouve ça très drôle. Et moi, il y a deux personnes que j'adore, c'est Lecomte et Poiré. Vraiment, c'est ceux qui font les beaux jours de mes 25 décembre. Là, je me suis refait Papy fait de la résistance et Opération Cornet de Bif. Bref, je suis une
mais vraiment un tonton.
Il ne manque plus que Weber et on a le tiercé gagnant. Hein.
Exactement. Et donc, ce qui est cool, c'est que cette BD, elle te montre que même si t'es Patrice Lecomte aujourd'hui, eh ben, tu te fais refuser des tonnes de projets par Gaumont, par tous les grands distributeurs de cinéma français. Et que donc, c'est pas parce que t'as un putain de nom et parce que t'as fait tes preuves que on va te produire ton film. Et donc, ça montre que, enfin, tu vois, pendant les quelques années où ils ont suivi Lecomte, il a eu des tonnes de refus de comédiens avec qui il avait pourtant déjà tourné, plein de refus de boîtes de prod, plein de refus de boîtes de distribution. Enfin, ça te montre à quel point c'est fucking compliqué de faire un film aujourd'hui, tout ce que ça demande en termes de fric, essentiellement. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça du point de vue de quelqu'un qui fait ça depuis 40 ans. J'ai appris aussi, ça je ne savais pas du tout, qu'à la base, il était dessinateur de BD et qu'il avait adapté et qu'il a fait... Qu'est-ce que je disais ? Il a fait pas mal de BD.
Il était dessinateur.
Il a travaillé avec Gottlieb. Il a fait plein de choses. Il a fait aussi 250 spots publicitaires. Enfin, c'est un gars qui touche à tout, globalement.
Il a fait quelques drames, il me semble, au moins un.
Il a fait quelques drames, dont un qui s'appelle Ridicule, qui lui a valu, je crois, le César du meilleur réalisateur, et qui avait été aux Oscars, où il s'est fait littéralement snobber par les frères Cohen. C'est une scène très drôle de la BD. Donc, je vous encourage à lire Lecomte fait son cinéma, que j'aime pas trop comme titre, mais bon, soit. Et
voilà, peut mieux faire là-dessus, mais à part ça, 5 étoiles, quoi.
Et voilà, c'est très drôle. Et puis, c'est très didactique. Voilà, n'hésitez pas à vous la procurer. Je ne sais pas combien ça coûte. Et c'est publié aux éditions Air Libre, dont je ne connaissais rien.
Un kiff plein de découvertes en temps réel, finalement. Bien, écoute, pour l'anecdote, je te l'ai dit en privé, mais du coup, je vais le dire aux auditeurs et auditrices. J'ai rencontré Patrice Lecomte quand j'étais au lycée, car j'ai fait l'option cinéma. Et il s'est quand même déplacé jusqu'à mon petit lycée de Valence dans la Drôme, qui est pas non plus... Voilà, je pense que quand t'es en option cinéma à Paris, ça arrive peut-être un peu plus souvent que t'es des réels de films césarisés qui viennent. Nous, bon, on avait... Mais après, on a des courts-métrages et tout. À Valence, c'est bien, mais on n'avait pas toujours des stars. Et il est venu, et il nous a fait toute une masterclass. on disait pas masterclass à l'époque, mais c'était une masterclass. Il est resté avec papoter avec nous. Après, il m'a dédicacé sa BD. Enfin, c'était grave bon délire, hyper accessible et tout. Donc, we love Patrice Lecomte dans cette famille.
Il a l'air d'être le meilleur gars.
Franchement, s'il a pas changé depuis, c'est le meilleur gars.
Nous, on avait que Jean-Pierre Coff à Alençon.
Trop putain, bien, mais Jean-Pierre c'est Coff. Génial.
Putain, kiff comme Coff. Ok.
Voilà.
Mon tour. Du coup, mon kiff, je l'avais noté pour avant les vacances, mais ça tombe plutôt bien que ça arrive après les vacances, car j'ai pu le revivre de façon vraiment entière et pleine, puisque mon kiff, c'est un truc dont je pense que j'ai pas encore parlé dans Laisse-moi kiffer, mais qui fait partie de ma vie depuis maintenant 2 ans et demi, c'est que pour la première fois de ma vie, je suis tata. J'ai un neveu. J'ai donc une nouvelle personne dans ma famille qui est un petit enfant, et dont je suis proche, plus que de mes cousins et cousines disséminés en Europe et au Maroc, puisque c'est mon neveu, donc je le vois directement, et à chaque fois quasiment que je vois ma sœur, sa maman, je le vois et je l'aime trop.
C'est ta sœur en Belgique ?
Non, c'est ma sœur en Suisse.
Mes sœurs sont cosmopolites. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Bah oui, je suis la seule qui suis restée dans notre belle France, finalement. Tout le monde a déserté. Bon, après, les salaires suisses, c'est sympa. Donc, ma sœur a eu un enfant, ce qui est en soi très cool. C'est un fils, ce qui est nouveau pour moi, parce que dans ma famille, on n'est que des filles. Et on a, alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau génétique, mais vraiment, dans ma famille, ça ne fait que des filles, quasiment.
Ah ouais ?
Donc, moi et mes sœurs, on n'est que des filles. Ma mère, elle a 10 sœurs et 2 frères. Enfin, il y a un truc. Voilà, les gènes, c'est fort. Les chromosomes XX sont très présents.
T'as beaucoup de tontons et de tatas, Mimi.
J'ai beaucoup de tatas et quelques tontons.
Non, mais même si elles sont mariées, ça fait beaucoup de gens, en fait.
Ah, mais ça fait énormément de gens, oui, oui, oui. Une des... Dans le top 5 des raisons pour lesquelles je suis pas hyper sûre de me marier, c'est que je suis là, diplomatiquement, ça va être trop chiant.
Putain, ouais, petite
moi, j'ai envie d'inviter maximum, genre, 60 personnes et...
Oui, non, ça fait
je prends
déjà...
un membre de ma famille, je déroule son cercle proche, c'est déjà 60 personnes, donc c'est très chiant. Ça, bon, on en reparlera, mais on fera un mariage en petit comité, désolé maman. Du coup, je suis tata, et c'est un petit garçon, donc je découvre... bon, après, c'est pas très différent, surtout à deux ans et demi, petit garçon, petite fille, mais c'est rigolo. Et donc moi, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis child-free, c'est-à-dire que je ne souhaite pas avoir d'enfant dans ma vie. Et c'était une vraie... Et une des raisons pour lesquelles je veux pas d'enfant, la principale, c'est que je veux pas d'enfants. Vraiment, j'ai pas envie d'avoir des enfants, tout comme j'ai pas envie de sauter en parachute. Il y a des choses dans la vie, ça te fait pas envie. Et déjà, quand ça te fait envie, ça a l'air compliqué. Je pense que si t'as pas envie, peut-être faut pas le faire. Donc, j'ai pas envie. Mais au-delà de ça, il y a le fait que je suis pas hyper à l'aise avec les enfants. Genre, j'adore les bébés, ça c'est trop bien parce que ça a un côté. Un bébé, c'est un petit chaton, c'est simple quoi. C'est un mammifère, ça sent bon. Tu le nourris, il fait dodo. Quand il t'aime bien, tu te sens hyper privilégié. T'es là, il m'a attrapé les cheveux, il est super. Mais t'as pas beaucoup d'interactions humaines. Et à partir du moment où les enfants parlent et marchent et deviennent du coup vraiment des personnes de façon externe, je ne sais plus interagir avec eux. Je suis mal à l'aise. Je sais pas à quel âge les enfants font des trucs. J'aime pas les gens qui parlent aux enfants comme à des petits débiles. Du coup, je leur parle comme à des adultes. Mais après, le gamin, il a 2 ans. Je suis là, ouais, tu vas à la balance 2 ou pas? Il s'en fout de toi, il comprend pas. Donc, j'avais peur de pas réussir à interagir avec mon neveu parce que je suis pas très à l'aise avec les enfants. J'ai pas hyper envie de traîner avec. Tous les trucs, genre, il y a des gens, ça les passionne, un enfant qui est, je sais pas, qui est mignon et qui te raconte sa journée à l'école. Ça part dans tous les sens. Ça veut rien dire. Ils sont là, c'est trop mignon. Moi, je suis là. Je comprends rien, frate, contexte, là, c'est pas logique, j'ai pas envie de... Je sais pas interagir avec les enfants.
Déformation professionnelle.
Voilà, c'est pas bien expliqué. Et tous les trucs de, voilà, oh là là, c'est vraiment merveilleux, quand ils apprennent à faire des trucs, moi j'ai jamais ressenti ce truc de la magie des enfants, je suis là... Potentiellement, entre 2 ans et 13 ans, si j'interagis pas avec toi, c'est pas très grave, et après on pourra parler de genre série Netflix et jeux vidéo, ce sera bien. Donc j'avais très peur de pas réussir à connecter avec mon neveu après qu'il soit plus bébé, et comme en plus il y a eu le Covid à peu près quand il est né, enfin puisqu'il avait 6-7 mois, je l'ai pas beaucoup vu bébé, donc j'étais là, ah non, à cet âge-là, ça double taille tous les 2 mois, donc à chaque fois je le voyais pas pendant 2-3 mois, j'étais là, putain, mais je vais vraiment rater toute sa vie de bébé, et après ce sera un enfant, et je sais pas si je l'aimerais bien quand c'est un enfant, parce que historiquement, je connecte pas trop avec les enfants. Et en fait, ça va. Je l'aime bien. Ouf! C'est bon. Je pense que comme il est de ma famille et qu'il est quand même super cool comme gamin, il est très sympa. Ça va. Et du coup, là, j'ai pu, vu qu'il commence à avoir l'âge où il se souvient de moi, on peut jouer avec lui, il nous raconte des trucs. Là, c'est bon, il marche, il parle et tout. Parce que voilà, je sais pas à quel âge les enfants font des trucs. Donc, des fois, ma soeur me disait, on vient de la crèche et j'étais là, à pied, en poussette, qu'est-ce qu'on en est où en termes d'autonomie de la chose? Il a toujours des couches, il mange solide, je ne sais pas. Maintenant, je sais à peu près ce que fait un enfant de 2 ans et demi, c'est bien. J'apprends des choses. Bon. J'ai toujours pas changé de couche, mais c'est pas mon métier. Et en fait, je l'aime bien. Il est grave cool et on a une bonne relation. Et je me dis que j'aime bien ce rôle de tata parce que c'est que le positif sans les trucs chiants. Puisque quand j'en ai marre, je peux juste dire bah tiens, je te le rends. C'est pas le mien, donc je te le rends. Bien sûr, je dépanne, je file des coups de main. Mais en fait, juste c'est pas mon problème. Et si j'ai envie de boire des coups jusqu'à 23h et d'aller me coucher, je peux le faire puisque je n'ai pas à m'occuper du fait qu'il doit dormir et avoir son biberon pour la nuit, avoir toutes ses tétines. J'ai que les aspects rigolos. Et je trouve que c'est un rôle assez cool. Que j'ai hâte de découvrir un peu plus en avance quand il grandira. Et finalement, c'est chouette parce que j'avais peur d'être la tata qui aime pas son neveu. Ça aurait été diplomatiquement pas dingue. Puis moi, je suis contente de pouvoir connecter avec lui et j'espère qu'on va rester potes. Donc voilà, c'est cool d'être tata. J'étais pas sûre, mais maintenant que j'ai testé, je peux dire c'est cool d'être tata quand le gamin est cool. S'il était chiant, ce serait moins cool.
T'as de la chance, mais parce que tu vois, Aïda, toi et moi, nous n'aurons pas ni de neveu ni de nièce, a priori.
Bah, après,
toi aussi, t'es enfant unique, Mathis.
Non, moi j'ai une grande sœur.
Ah oui, bah voilà. Et on après, il y a toujours nos enfant. Mecs qui ont des frères, des sœurs et qui ont des enfants, peut-être.
Après, moi, je suis pas pareil. Autres, tu vois. Je suis assez proche de mes cousins et cousines, de manière générale, donc des enfants des frères et sœurs de ma mère et mon père. Et du coup, moi, je me considère comme la tante de leurs enfants, tu vois. Alors, bon, j'ai un côté de la famille où personne a d'enfants. Pour l'instant ou de manière générale, je ne sais pas, mais j'ai une nièce du côté paternel. Et pour le coup, j'avoue, moi, j'aime trop être tante aussi. C'est un peu ma passion. Je l'adore.
Est-ce que tu peux être la tata cool? Bah... Et genre, vraiment, pour moi, mon goal, c'est d'être la tata cool qui, en plus, n'a pas fait d'enfant. Donc, normalement, je devrais avoir pas mal de thunes parce que je vais pas la dépenser dans avoir un enfant. Et je veux vraiment être la tata cool qui t'offre des cadeaux cool à Noël et qui, peut-être, te file ton premier verre de vin un peu plus tôt que prévu, tu vois, parce qu'elle est chouette.
C'est genre 8 ans.
Le goal. Non, pas 8 ans quand même.
Chez nous, c'est comme ça.
En Suisse, après, avec la raclette, ça passe, tu vois.
Ouais, puis c'est un côté un peu... En fait, moi, ce que je trouve toujours hyper, hyper impressionnant, c'est la manière dont les enfants, ils s'imprègnent de ces trucs de récits familiaux qu'on leur transmet, tu vois. Donc moi, ma nièce, que j'adore, qui a 6-7 ans maintenant, elle m'a pas vue toute sa vie parce que bah, y a eu des périodes où on n'était pas dans le même pays, on s'est vus par intermittence, etc. Mais je la revois régulièrement. Et en fait, bah, toute sa vie, ses parents lui ont dit « Ah bah voilà, tiens, sur cette photo, c'est tante Naïda. Je sais pas, quand je les appelle, on se parle et tout. » Et du coup, chaque fois qu'on se retrouve, même si c'est pas la même personne, parce qu'à cet âge-là, ça grandit hyper vite, donc entre ses 6 mois et ses 7 ans maintenant, tu vois, elle a complètement changé. En fait, elle est vraiment trop pleine de curiosité et d'amour et de besoin de, bah, de communiquer, parce qu'en fait, pour les gamins, c'est trop cool aussi d'avoir eu des figures d'adultes qui sont pas directement leurs parents, tu vois. Ils ont envie de savoir comment fonctionnent les autres, ce que font les autres et tout. Et du coup, moi, j'aime trop passer du temps avec ma nièce, on se tape des barres, tu vois. Enfin, justement, ce truc que tu racontais de... Il y a des gens qui sont fascinés par les gamins qui racontent leur journée et tout. Moi, c'est ma passion. Des fois, on prend le bus ensemble. Ses parents, ils me la laissent, tu vois. Ils vont se mettre à l'autre bout du bus parce qu'ils savent que pendant 4 heures, elle va être là. Et après, et ben, ma maîtresse, et gna gna gna. Et moi, je suis là, ouais, mais c'est trop bien. J'ai envie de savoir toutes ces choses et tout. Je réagis de manière absurde parce que, tu vois, je connais pas ses enjeux. Elle a 7 ans, moi, j'ai oublié ce qui se passait de ma
Je connais pas ses enjeux.
Mais juste, je suis là, ah ouais, abusée et tout. Et c'est très plaisant de partager ces trucs-là avec un petit être, tu vois, qui ensuite bah, évolue. Parfois, en se souvenant aussi vachement des trucs que tu lui as dit, tu vois. Après, moi, je crois que je suis en train de décrire un truc super égocentrique. Genre, c'est trop bien de voir quelqu'un qui se souvient de toi 4 ans après.
Non, mais c'est assez
ouf. Attends, évidemment que ça participe au kiff du truc.
Oui.
Bah ouais.
Moi, par exemple, j'ai cherché... pas plus tard qu'il y a genre un mois ou deux, un enfant que j'ai gardé pendant des années et je le détestais. et en fait, dans cette famille, il y avait 3 enfants et je m'entendais trop bien avec les 2 premiers, dont un qui était grave fou amoureux de moi. Et genre, et bah, du coup, moi, je me sentais un peu privilégiée et tout. Donc
t'étais la babysitter sexy.
J'étais la babysitter sexy et tout. Donc j'en faisais des caisses et tout. Je draguais un peu leur père aussi.
Cachez vos maris, quel idée de sortie.
Ce cliché sur pattes.
Et genre, et le dernier était un monstre. J'aurais aimé communiquer avec lui maintenant qu'il doit avoir, je sais pas, genre 16 ans, tu vois. Parce que il m'en a fait des vertes et des pas mûres. Notamment une fois, j'étais en train de lui faire à manger. Il vient, il se met à côté de moi, il me tend une fourchette à 2 doigts de mes yeux. Il me fait plus vite ou je te crève les yeux. Comme ça.
Il a quel âge à ce moment-là, cet enfant ?
Il avait 7 ans et demi.
L'exorcisme quand même, c'est bien, non ?
Ouais, non, mais il était terrible. Enfin, c'était un petit enfer. Et l'autre jour, j'ai pensé à lui parce que je parle souvent de lui en soirée. Et je me suis dit, bah, tiens, que devient cette personne ? Et j'ai cherché partout, j'ai écumé tout Internet et je ne l'ai pas trouvé. Donc, je suis extrêmement triste. Mais j'aurais voulu avoir une interaction avec cette personne. Je trouve ça drôle de savoir si les petits, en effet, ils se souviennent non pas seulement de leur tata et de leur cousine, mais aussi gens qu'ils ont gardés pendant fucking 10 balais.
Ah bah oui, je pense de ouf. J'ai pas mal de potes qui ont fait du babysitting et qui ont toujours, genre, tous les 2-3 ans, des petites nouvelles, tu vois, des enfants qui ont.
Je sais pas comment le prendre parce que personne ne m'a jamais écrit.
Après, elles en prennent aussi.
Je suis dans la même team que toi, Kalindi. J'ai tenté de garder contact avec la famille. famille et j'ai senti très vite du jour au lendemain, bon bah c'était fini, c'était très bien, mais c'est fini.
Ouais, mais moi j'ai vraiment passé autre chose. Je pense que j'ai bien réfléchi et en fait j'ai volé tellement de pots de glace et en fait un jour, parce que moi je passais ma vie à manger leur provisions, et en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient caché leur pot de glace derrière les fruits et légumes surgelés dans le congélateur, et pour me venger j'ai donc mangé en intégralité. Et je pense que les parents ont dit on arrête avec Kalindi, elle mange toutes nos provisions.
Elle coûte trop cher en glace.
Mais c'est incroyable.
Et ils avaient raison.
Tout à fait.
Ah oui, parce que j'étais bien, moi. J'étais gentil.
Ah ouais, faut pas être trop gentil, Mathis. Voilà, ça t'apprendra.
Ben non, voilà. Grave.
Les gens t'oublient après.
Sur ces belles paroles, je pense que c'est la conclusion de ce LMK. Faut pas être trop gentil après,
triste.
Les gens vous oublient.
C'est horrible.
Non, c'est faux.
Les bonnes résolutions
2022, soyez gentils. Mais ne vous écrasez pas quand même. Faites respecter vos limites. Piquez de la glace dans le congélo de vos employeurs. Finalement, c'est à ça que sert la vie. Faites pas. Du coup, merci. Chère équipe, pour
merci
ce premier
laisse-moi
de 2022.
Merci.
Pour rappel, comme c'est le début de l'année, on rappelle quand même les bails. Si vous voulez nous laisser des commentaires et des dédicaces écrites, ça se passe sur
Apple Podcast
avec
5 étoiles.
Si vous voulez nous laisser des messages boubou, des messages réré, des messages des dédicaces audio ou des jingles, ça se passe en DM sur le compte @laisse-moi-kiffer sur Instagram ou à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Et je tiens à dire, parce que je suis parfois mauvaise langue, qu'on reçoit de plus en plus de messages boubou par mail, parce que les gens ont retenu que c'est plus simple
vous
pour
êtes trop chou
pour le montage et que c'est compliqué de récupérer les audios depuis Instagram. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui font l'effort, et puis les autres, on vous aime quand même. On se dit à la semaine prochaine, on vous fait des bisous, encore bonne année, bye bye.
Gros bisous.
Bisous.